Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et l'essentiel de ce journal sera évidemment consacré donc aux résultats des élections européennes, marquées non seulement par l'affaiblissement des deux formations qui depuis près de 40 ans auront régenté le paysage politique communautaire, les conservateurs du Parti Populaire Européen d'un côté et les sociaux-démocrates de l'autre, l'occasion d'évoquer à la fois la place des partis populistes mais aussi la percée des Verts et des Libéraux, les deux seules formations pro-européennes et démocratiques en réelle croissance.
Et puis s'agissant de la France, les résultats de ces élections confirment la nouvelle bipolarisation de la vie politique entre La République En Marche et le Rassemblement National.
Oui, ou dit autrement, l'émiettement, sinon l'explosion des partis de gouvernement sous la 5e, le Parti Socialiste d'un côté et les Républicains de l'autre. Invité du journal pour évoquer toutes ces questions, le politologue et sondeur Jérôme Sainte-Marie, président de Pollingvox. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous évoquerons notamment ce verdict inédit hier en Irak pour des citoyens français. Trois djihadistes ont été condamnés à mort à Bagdad pour leur implication au sein de l'organisation État islamique. Ils disposent désormais de 30 jours pour faire appel. Ce matin, un quatrième Français a également été condamné à mort pour appartenance à Daesh. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Vous avez Jérôme Sainte-Marie, nous avons Jérôme Fourquet dans cette deuxième partie de la grande table, auteur de l'Archipel français, qui est également le prix de l'essai politique cette année. Il reviendra sur ce constat qu'il avait fait de la France, cette fragmentation, cette archipélisation du paysage. Et nous verrons si aujourd'hui elle se retrouve dans la carte et leur au lendemain de ce scrutin européen.
Merci, à tout à l'heure. Si à défaut de pouvoir désigner clairement le vainqueur de ces élections européennes, comprenez de 28 scrutins nationaux, il fallait toutefois s'efforcer de dégager une tendance, voire une leçon, ce serait sans doute celle-ci, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'UE ne laisse plus indifférent. Jamais depuis un quart de siècle, la mobilisation n'avait été aussi forte quand la participation était tombée en 2014 à son plus bas niveau historique, sous les 43%. Elle aura dépassé cette année les 50 et augmenté pour la première fois en 40 ans d'histoire électorale à l'échelle du continent. Et sans doute, l'une des explications possibles de cette mobilisation accrue donc aura été la polarisation désormais de la vie politique entre nationalistes d'un côté et pro-européens de l'autre. L'un des enjeux de ce scrutin, du moins présenté comme tel, était en effet le risque de voir l'Europe submergée par une vague qualifiée tantôt de populiste, tantôt de souverainiste, à tout le moins europhobe. Or, il ressort des résultats d'hier que le tsunami eurosceptique tant redouté n'aura finalement pas déferlé sur le vieux continent. Audrey Tison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors plus exactement, si plusieurs formations peuvent, c'est vrai, se vanter d'être arrivées en tête dans leurs pays respectifs, en France, en Italie, en Hongrie ou bien encore au Royaume-Uni, leurs thèmes de prédilection, qu'il s'agisse de la crise migratoire ou du chaos du Brexit, n'auront pas permis de barrer totalement la marche des partis europhiles. Et ce devrait être encore plus vrai à Strasbourg, que toutes ces droites euro-extrêmes, morcelées en trois groupes politiques distincts, n'ont jamais été capables jusqu'à présent de s'entendre au niveau européen, André.
Oui, jusqu'à présent, ils siègent dans trois groupes différents. D'abord, l'Europe des Nations et des Libertés, là où siège le Rassemblement National de Marine Le Pen et la Ligue de Matteo Salvini. Les bons résultats de ces deux formations renforcent la position de ce groupe. 21 élus en plus, 7% des eurodéputés, pas assez pour peser vraiment dans l'Assemblée. Quasiment au même niveau, il y a l'Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe. Un groupe en progression, grâce notamment au gros contingent envoyé par les Britanniques du Brexit partie de Nigel Farage. Et puis le troisième groupe qu'on pourrait en partie qualifier d'eurosceptique, ce sont les conservateurs et réformistes européens. Un groupe en recul, 17 sièges en moins. Il peut toujours compter sur les Polonais du PiS, mais il pâtit de la chute des conservateurs de Theresa May, seulement 8 élus. Pas sûr que ces deux derniers groupes survivent tels quels au départ des élus britanniques. D'ailleurs, certains aimeraient d'ores et déjà regrouper le maximum de ces élus en un même groupe. C'est la fameuse alliance prônée par Matteo Salvini. Les négociations semblent bien avancées avec les Allemands de l'AFD. En revanche, ça coince avec les démocrates de Suède et le PiS polonais, par exemple, qui refusent absolument de siéger aux côtés de la française Marine Le Pen. Et cela révèle des profonds désaccords entre ces eurosceptiques. Le premier, c'est le rapport à la Russie pour les Polonais. Hors de question de se rapprocher de Moscou, dont Salvini et Le Pen sont proches. Désaccord aussi sur la politique migratoire. Si tous veulent contrôler l'immigration, certains prônent une répartition égalitaire des migrants entre les pays, tandis que les pays de l'Est refusent d'ouvrir leurs portes. On voit donc mal comment l'ensemble de ces partis pourraient s'unir. Pourtant, sur le papier, si on cumule arithmétiquement leur siège, ils deviendraient la deuxième force du Parlement, juste derrière le grand groupe de droite, le Parti populaire européen.
Merci Audrey Tison, en direct de Bruxelles. Alors si la déferlante brune annoncée n'a pas submergé le vieux continent, il est en revanche une vague verte, celle-ci qui aura réussi hier à faire tanguer quelque peu les équilibres au sein du Parlement européen, au point qu'en décrochant un score historiquement haut, les partis écologistes pourraient même se retrouver désormais en position de faiseur de roi. Dans plusieurs pays de l'Union, les Verts ont en effet réussi à décrocher un résultat à deux chiffres. C'est le cas en France, en Autriche, mais aussi en Irlande, aux Pays-Bas, en Finlande, sans oublier bien sûr l'Allemagne. Là-bas, le parti écologiste double son score de 2014 et il s'impose désormais comme la deuxième force politique du pays. Éric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Avec près de 21% des voix, les Verts s'imposent comme le premier rival du parti de la chance Angela Merkel et ses alliés bavarois, devant donc les sociaux-démocrates, ce sont très clairement les grands gagnants de ces élections. Alors avec quelles conséquences, Eric, est-ce qu'il faut en déduire que la grande coalition touche à sa fin en Allemagne?
Alors pas forcément hein, Thomas, mais il est sûr que le SPD, les sociaux-démocrates allemands, avec seulement 15,5% des suffrages et une troisième place, est en très mauvaise posture et que sa position au sein de la grande coalition a été fragilisée. Parce que c'est bien en Allemagne que la vague verte a été la plus forte et de loin, de très loin même. Si les Verts des autres partis écolos et les autres partis écolos ont bien fait des résultats importants en Europe, notamment en Europe du Nord, autour de 10% des suffrages, un peu plus de 12% en France, 12% en Grande-Bretagne également, en Allemagne, Die Grünen ont récolté plus de 20,7% exactement, ils doublent leur score de 2014. Les Grünen qui ont clairement profité de la mobilisation pour le climat, les grèves lycéennes et étudiantes du vendredi, selon les sondages sortis des urnes, ce sont en majorité les tranches d'âge les plus jeunes qui ont massivement apporté leur voix aux Verts allemands. 33% des 18-24 ans auraient voté pour eux. Mais les Grünen bénéficient aussi d'une dynamique propre, antérieure à ces mobilisations et qui avait vu leur candidat percer dans les dernières consultations régionales allemandes l'année dernière en Bavière et en Hesse notamment. Le résultat du scrutin d'hier devrait leur donner 22 sièges à Bruxelles et Strasbourg. Les Verts allemands seront de loin la première formation nationale au sein du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen. Un groupe désormais pivot, maintenant que les deux grands partis européens classiques, les socialistes et démocrates à gauche, le Parti des peuples européens à droite, n'ont plus à eux deux la majorité. L'appui des Verts risque de se révéler indispensable pour constituer de nouvelles majorités, un autre type de coalition hein, au Parlement européen, notamment pour élire le président de la Commission européenne, celui qui succédera à Jean-Claude Juncker.
Merci Éric Bigala. Alors effectivement, avec près de 70 sièges dans l'hémicycle du nouveau Parlement contre 52 jusqu'à présent, on imagine que les Verts européens ne vont pas se priver d'utiliser leur progression pour tenter d'entrer dans une majorité, du moins vont-ils pouvoir aborder des négociations en vue de former une coalition en position de force. Et voilà qui nous conduit tout naturellement à évoquer la composition du futur Parlement européen. Les élections d'hier ont très nettement mis fin à la domination des deux artisans historiques de la construction européenne, les conservateurs de la démocratie chrétienne d'un côté, regroupée au sein du PPE, et puis l'Alliance des sociaux-démocrates de l'autre, autrement appelée PSE. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors précisons tout de suite, Angélique, que ces deux blocs restent bien les premières forces politiques du Parlement. En revanche, l'un comme l'autre perdent leur majorité absolue dans l'hémicycle. Est-ce qu'il faut en déduire, Angélique, qu'il n'y a plus aujourd'hui à Strasbourg ou Bruxelles de tendance européenne, mais seulement une retranscription de développement ou d'évolution nationale ?
Oui, c'est très clair avec ce morcellement des partis et la fin du bipartisme avec 180 sièges pour la droite, 24% des voix et 146 pour les sociaux-démocrates, près de 20% selon les toutes dernières estimations. Il manque en effet une cinquantaine de sièges aux deux grands partis qui se partageaient le pouvoir depuis 1979 pour être majoritaires à Strasbourg. Il leur faudra donc composer désormais avec la troisième force du Parlement, ce sera celle des centristes et des libéraux, ce nouveau pôle formé avec les élus de la République En Marche avec 14% des suffrages, il devrait compter 109 membres. Les Verts, quatrième famille politique du Parlement, font un très bon score, on vient de le dire, avec 9% des voix à l'échelle européenne, donc selon ses derniers résultats, avec 69 sièges. Ils escomptent bien peser eux aussi dans la discussion qui va s'ouvrir entre ces quatre groupes pro-européens autour d'un véritable programme pour les 5 ans à venir. Du côté des eurosceptiques et de l'extrême droite, la poussée est nette mais contenue. Les deux groupes les plus à droite affichent à eux seuls plus de 100 sièges. 15% des voix. Enfin, la gauche radicale en baisse devrait récupérer 39 sièges. Elle en perd 13 avec 5% des suffrages.
Alors on l'a bien compris, Angélique, un changement radical est donc en train de se dessiner, ce qui pose évidemment la question des semaines à venir qui s'annoncent d'ores et déjà cruciales pour la constitution de futures alliances.
Oui, et en particulier dans la perspective immédiate de l'élection du président de la Commission européenne, celui qui impulsera les grandes réformes à venir. Il est dit dans le traité de Lisbonne que les chefs d'État et de gouvernement doivent tenir compte du résultat des élections dans le choix de leur candidat pour diriger cette commission. Les familles politiques du Parlement veulent donc que cela soit, comme en 2014, l'un de leurs trois chefs de file. L'Allemand Manfred Weber, qui s'estime le plus légitime puisqu'il représente le PPE, la droite en tête. La Danoise Margrethe Vestager, qui frappe à la porte en qualité de chef de file des libéraux, qui se veulent faiseurs de rois dans le prochain Parlement. Et puis le socialiste Frans Timmermans, qui n'est pas en reste, mais l'élu doit être adoubé par une majorité de chefs d'État et de gouvernement. Et là, c'est loin d'être gagné. C'est de cela dont on discutera dès demain soir lors du sommet extraordinaire convoqué ici à Bruxelles.
Merci Angélique Bouin, direct de Bruxelles. Alors si le nouveau Parlement européen devrait donc refléter une Europe plus fragmentée que jamais, c'est aussi parce que dans nombre de pays, les enjeux auront souvent pris une connotation nationale. Au Royaume-Uni, la victoire du parti du Brexit du populiste Nigel Farage renforce désormais l'hypothèse d'un no deal. En Grèce, là-bas, Alexis Tsipras, au pouvoir depuis 4 ans, avait fait du scrutin européen un vote de confiance à l'égard de sa politique, alors que son mandat expire au mois d'octobre. Or, après sa lourde défaite, le Premier ministre a aussitôt annoncé la convocation de législatives anticipées dès le mois de juin, soit 4 mois avant la fin de son mandat. Et puis en Autriche, fragilisé par la rupture de son alliance avec l'extrême droite, le chancelier Sébastien Kurz est lui menacé d'une éviction brutale avec le vote dès aujourd'hui d'une motion de censure de l'opposition échaudée par les désastreuses révélations de l'Ibiza Gate. En France, cette fois-ci, le Rassemblement National a lui confirmé son enracinement en arrivant en tête du scrutin avec près de 24% des voix devant l'Alliance de la République en marche et du Modem à moins de 2 points derrière, reproduisant ainsi, et à peu de choses près, le duel de la présidentielle de 2017. Ou dit autrement, et en dépit d'une forte participation, 52%, soit 9 points de plus qu'en 2014, eh bien la mobilisation des électeurs aura tout juste réussi à faire bouger quelques lignes, mais sans perturber véritablement le duel annoncé entre la majorité présidentielle et le camp de Marine Le Pen. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Ces résultats, Anne, confirment donc la nouvelle bipolarisation du paysage politique français.
La présidentielle de 2017, les européennes, hier, deux échéances qui ont fait éclater le cadre politique traditionnel, celui qui tenait lieu de repère depuis des décennies avec une alternance entre la gauche et la droite. La gauche du Parti Socialiste, elle avait déjà quasiment disparu avec l'élection d'Emmanuel Macron sous le nez de François Hollande il y a 2 ans. C'était la Révolution en marche qui a cristallisé hier son socle électoral avec ce résultat de 22,4% environ et ses 23 sièges a priori. À Strasbourg, au passage, le score très médiocre de la France Insoumise, 6,2%, confirme l'affaiblissement de la gauche, quelles que soient ses affiliations. Hier soir, ce cadre traditionnel s'est un peu plus détricoté à droite cette fois-ci. Si les Républicains avaient bien résisté en dépit des affaires au premier tour de la présidentielle, les 20% de François Fillon ont été plus que dégarnis. À la surprise générale, la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, n'a réuni que 8,5% des voix. L'heure était extrêmement grave ce matin pour l'eurodéputé Geoffroy Didier. Il en va de la survie de sa famille politique, a-t-il expliqué sur France Inter.
Qu'il faut que la droite aujourd'hui fasse sa révolution mentale et idéologique. Et si nous ne la faisons pas, nous mourrons. Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de nous poser la question du projet que nous aurons apporté pour la France en vue de 2022. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il n'y ait aucun jeune qui vote à droite ? La droite doit se déringardiser d'urgence et doit notamment abandonner son conservatisme sociétal.
Un bureau politique va se réunir ce soir à 18h chez LR, on l'entend, c'est toute la stratégie Wauquiez qui tombe à plat. Et Marine Le Pen a beau jeu avec le président Macron consentant de définir le nouveau contour, elle qui martèle à chaque discours depuis 2 ans ce nouveau schéma qui infuse ce clivage entre mondialistes contre nationaux.
Merci Anne Fauquemberg. Alors au fond, la vraie surprise de ces élections sera venue de la liste Europe Écologie Les Verts, dont la percée à 13% des voix confirme cette vague verte européenne, donc liée au dérèglement climatique. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Durant ces élections, tous les partis avaient verdi de façon plus ou moins opportune. Manifestement, les électeurs auront choisi l'original plutôt que les différentes copies à leur disposition. Sait-on plus précisément, Rosalie, qui a mis un bulletin vert dans les urnes ?
C'est vrai, dans cette campagne, quasiment tout le monde a parlé d'écologie. Quasiment toutes les listes ont mis en avant des candidats écolos, des belles prises même pour certains. Et pourtant, à la fin, il n'y a pas de fuite du vote vert. Les écologistes font mentir les enquêtes d'opinion. Et ça ne surprend absolument pas la tête de liste Yannick Jadot, invité de France Info ce matin.
Les sondages se trompaient, incontestablement, mais il y a, on le sait dans cette élection européenne, on le voit élection européenne après élection européenne, il y a une cristallisation de l'électorat sur la dernière semaine. C'est pour ça que, encore ces derniers jours, je vous promettais un très beau score des écologistes et nous l'avons obtenu.
Et cela vaut même un petit hommage du Premier ministre. Dès hier soir, Édouard Philippe assure avoir reçu le message de nombreux Français sur l'urgence écologique, de nombreux Français et notamment de nombreux jeunes Français. Avec son pari un peu fou de partir seul dans la bataille, refusant toutes les mains tendues à gauche, Yannick Jadot arrive en tête chez les moins de 35 ans. Une mobilisation capitale pour le député européen.
Ah bah elle est essentielle parce que cette jeunesse qui s'est mobilisée justement pour que son avenir, qui est notre destin, ne soit pas décidé par d'autres, c'est notre plus belle surprise, c'est notre plus beau enthousiasme.
Europe Écologie Les Verts se retrouve aujourd'hui au centre d'une gauche bien mal en point. Yannick Jadot semble en être conscient. Il va falloir dépasser EELV et construire un grand mouvement de l'écologie politique, beaucoup plus large, plus ouvert et plus crédible, note encore ce matin l'ancien militant de Greenpeace.
Merci Rosalie Lafarge. Et pour continuer d'évoquer les résultats de ces élections, invité aujourd'hui de la rédaction Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur et président de Pollingvox. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question monsieur Sainte-Marie, puisque nous évoquions à l'instant le vote en faveur des écologistes. Diriez-vous que c'est un vote de conviction ou de circonstance? Et puis est-ce que les Verts seraient aujourd'hui le nouveau parti de la gauche?
Alors, c'est d'abord un vote de conviction, puisque effectivement la préoccupation écologique est forte. On avait vu ces dernières semaines l'environnement apparaître dans le trio de tête des motivations des Français, avec le pouvoir d'achat et l'immigration. Donc il y a bien effectivement une préoccupation très large et qui trouve à s'exprimer de manière un peu paradoxale dans ces élections, comme parfois pour les élections régionales, parce que c'est considéré comme des élections n'ayant pas un enjeu de pouvoir prioritaire. Alors, faut être très prudent quand même, parce que depuis 1992, depuis les régionales de 1992, régulièrement, à des scrutins dits intermédiaires, on nous annonce que la vie politique va être transformée par l'irruption de l'écologie. Or, ça ne se concrétise pour l'instant pas du tout lors des élections principales, c'est-à-dire les élections où il y a une dévolution de pouvoir qui est bien identifiée par les Français. La première d'entre elles, bien sûr, c'est l'élection présidentielle. Deux chiffres. À la présidentielle, jamais un candidat écologiste n'a dépassé 5,25% des suffrages exprimés. C'était Noël Mamère en 2002. Alors qu'inversement, on a déjà vu une liste écologique. C'était donc il y a 10 ans. Elle était dirigée à l'époque par Daniel Cohn-Bendit et elle avait atteint 16%. 16% il y a 10 ans, vous avez vu depuis 10 ans une formation écologique prendre le pas sur les autres dans la vie politique? Certainement pas. Donc moi je serais quand même très très circonspect sur l'avenir de l'écologie politique au-delà de ce type d'élection.
Une question de Stéphane Robert.
Vous avez raison, ce sont des élections très particulières où les enjeux de pouvoir sont peut-être moins importants que sur d'autres scrutins. Pour autant, les sondeurs, comme le disait Yannick Jadot, se sont-ils trompés?
Dans une large part, sans doute. En tout cas, une large part qui est concentrée sur deux cas. Sur, effectivement, le vote écologiste. Alors là, je serai relativement modéré par rapport à la profession à laquelle j'appartiens, dans la mesure où c'est un vote assez volatile, parce que c'est plutôt un second choix, etc. Et qu'on a quand même vu qu'il y avait une progression importante de la participation dans les tout derniers jours, quasiment dans les dernières heures. C'est-à-dire que la plupart des sondages qui étaient faits la semaine dernière, ceux qui étaient publiés... Alors, déjà, un sondage qui est publié le vendredi, ça veut dire qu'il est réalisé le mardi, mercredi, jeudi. Il y a un effet comme ça de latence qui n'est pas négligeable. Et c'était fait à une époque où on avait 42, 44%, 45 peut-être, tout à la fin, d'intention d'aller voter.
Et là, on est à peu de 50.
Et on dépasse les 50. Donc, finalement, ceux qui sont arrivés à la fin ne ressemblent pas aux précédents. Donc, ça explique une large part de l'écart. Et ce qui est plus troublant, c'est quand même sur le vote pour la liste LR, la liste Bellamy. On a affaire à... Là, il s'est passé quelque chose de très puissant, parce que...
Il y a un effondrement, là.
Là, si l'effondrement... Alors, soit c'est un problème des sondages, mais je vois pas très bien pourquoi. C'est très probablement une décision qui a été prise tardivement par cet électorat, qui est un électorat qui est radicalement différent de l'électorat écologiste, c'est même l'antithèse en fait, hein, en termes d'âge, de catégorie sociale, de référence culturelle, et qui là se serait dit Il faut à tout prix voter pour le parti du gouvernement, le parti de l'ordre de fait, pour éviter que reparte le mouvement social, que pour éviter les troubles qu'a connu la France depuis 6 mois. Donc, est-ce que c'est une... Je suis pour l'instant, moi, incapable de faire la part entre ce qui serait peut-être une erreur technique et ce qui est, à mon avis, plus probablement une cristallisation du vote et une montée surtout de la participation dans les tout derniers jours de la campagne.
Et l'effondrement de la France insoumise, comment vous l'expliquez ?
L'effondrement de la France insoumise était anticipé par certains, dont moi-même, depuis quand même quelques mois, là pour le coup, et c'était manifesté dans les sondages. Vous avez un mouvement qui, il y a maintenant presque un an et demi, a considéré que le moment populiste était terminé. Je sais bien que beaucoup d'ennemis de Jean-Luc Mélenchon, enfin d'adversaires de Jean-Luc Mélenchon, le décrivent comme un populiste. En fait, la ligne n'est plus populiste depuis fort longtemps, et à l'inverse, ils ont mis en avant des thèmes de gauche et des thèmes écologistes, et ils ont fait l'analyse que il y avait de nouveau une cristallisation gauche-droite, la droite étant représentée dans leur esprit par Emmanuel Macron, et la gauche devant l'être par Jean-Luc Mélenchon. Ils ont donc fait une erreur, à mon avis, d'orientation décisive, puisque c'était précisément, et on l'a vu il y a 6 mois avec le développement de ce mouvement qui correspond très clairement au populisme, qui est le mouvement des Gilets jaunes, on a bien vu que non, le moment populiste que traverse le pays n'est pas terminé, tout au contraire, s'amplifie, et que jamais le clivage gauche-droite n'a été autant affaibli. Et je crois qu'en reprenant tout le vocabulaire et les thèmes de la gauche, à un moment donné où ça n'intéresse plus grand monde, notamment les catégories populaires, eh bien la France insoumise a commis une lourde erreur qui est bien plus importante quand on ses conséquences électorales que le comportement de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions ou bien tel ou tel événement de la campagne. C'est bien un problème de fond, un problème de ligne qui a été sanctionné hier.
Au bout du compte, on a assisté à un duel, à une polarisation entre Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, entre La République En Marche et le Rassemblement National, entre populistes et progressistes. Est-ce que c'est la suite logique d'une recomposition du paysage politique entamée en 2017?
Oui, je pense. Cette élection est très intéressante, les élections européennes, parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé par le déroulé de la campagne. Au fond, on ne peut pas dire que la liste de La République En Marche a été conduite par quelqu'un manifestant un talent incroyable, Madame Loiseau. On ne peut pas dire que le matériel de campagne était extraordinaire, etc. Et pourtant, La République En Marche réussit à arriver en seconde position, mais de justesse. Et pour un parti qui est le parti du pouvoir, il n'a pas été sanctionné. Tout simplement parce que la cristallisation se fait aujourd'hui sur des bases sociales, non seulement et sur des bases sociales en termes sociologiques, mais également en termes d'imaginaire social, ce qu'on appelle en fait un conflit de classe, pour dire les choses clairement, et que on a un bloc élitaire autour de la bourgeoisie qui s'est regroupé derrière Madame Loiseau, comme il l'avait fait déjà derrière Emmanuel Macron, sauf que la part peut-être d'électeurs venus de la droite est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était lors de la présidentielle, et inversement, de fait. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas, à mon avis, un parti d'extrême droite. Le Rassemblement National représente les espérances ou les frustrations, les attentes en tout cas, des catégories populaires, celles qui sont les moins pro-européennes et surtout celles qui ont soutenu les Gilets jaunes au cours des derniers mois.
Merci Jérôme Sainte-Marie, politologue sondeur et président, je le rappelle, de Polling Vox d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Stéphane Robert. Dans le reste de l'actualité en France, trois personnes, dont une femme, ont été interpellées ce matin et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'explosion d'un colis piégé vendredi dernier à Lyon, à 2 jours du scrutin européen. Explosion qui a fait 13 blessés légers. Une quatrième personne est par ailleurs entendue en audition libre depuis ce matin. Le principal suspect, âgé de 24 ans, est présenté comme un étudiant en informatique, inconnu des services de police et de renseignement. La justice irakienne a condamné à mort ce matin un quatrième Français pour appartenance au groupe djihadiste État islamique. La veille, 3 autres Français avaient écopé de la peine capitale pour appartenance à l'EI. Un verdict inédit. Il dispose de 30 jours désormais pour faire appel de cette décision. Les avocats français qui n'ont pas pu assister au procès de leurs clients parlent de justice expéditive et demandent à la France d'agir en urgence. Tôt ce matin, le ministère des Affaires étrangères a fini par réagir à ce verdict qui place des citoyens français sous la menace d'une exécution. Les précisions d'Olivier Poujade.
La diplomatie française a pris son temps pour faire connaître sa position et conserver l'équilibre entre son opposition de principe à la peine de mort et le choix du gouvernement en février dernier de livrer ses ressortissants aux autorités irakiennes. La sentence de la cour de Bagdad n'a rien de surprenant. Les magistrats irakiens sont impitoyables dès lors que le lien avec l'organisation État islamique est établi. Dans son communiqué, le Quai d'Orsay réaffirme que la justice irakienne est compétente pour juger des crimes commis par Daesh, respecte la souveraineté des autorités du pays Libye. L'État français signale toutefois que les djihadistes français, comme tout citoyen, bénéficient de la protection consulaire, qui prévoit notamment l'assistance d'un avocat et des démarches diplomatiques pour rappeler à l'Irak que la France rejette toute condamnation à mort. Comprendre en clair que les autorités françaises ne contestent pas le verdict, mais elles s'engagent à agir pour que l'exécution de ces Français n'ait jamais lieu.
Et j'ajoute que le procès d'un cinquième Français a lui été renvoyé au 2 juin. On termine avec un mot rapide de météo. Un ciel lumineux sur le Languedoc-Roussillon et dans la vallée du Rhône. De belles éclaircies également du nord au nord-ouest. Partout ailleurs, en revanche, le ciel restera chargé avec de petites pluies. Les températures atteindront entre 16 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.